bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être ensemble. C'est un plaisir aussi de voir quelques visages nouveaux. Je salue certaines personnes qu'on a pu connaître dans un passé qui commence à être un peu lointain, voilà, qui me saluent dans la salle. Bienvenue à vous. Et donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans une série historique très marquante pour les Israélites avec la sortie d'Égypte après une période de 400 ans au cours de laquelle le peuple est devenu esclave de Pharaon. Le Pharaon refuse de laisser partir le peuple de Dieu et Dieu doit envoyer successivement sur l'Égypte 10 plaies pour contraindre le Pharaon à laisser partir le peuple. Suite à la 10e plaie, le peuple est enfin sur le départ. C'est Moïse qui conduit les opérations sous l'autorité directe de Dieu. Et comme vous pouvez le constater sur la carte, au lieu de prendre directement, je vais m'approcher, j'espère que ça va suivre, au lieu de prendre directement le trajet direct en bleu qui est en haut de la carte, Dieu a eu un autre plan et il a souhaité que le peuple s'oriente vers le sud avant de remonter vers le nord. Alors pourquoi cela? Parce que, comme vous pouvez le voir, ce qui est encerclé en rouge, c'est une région particulièrement dangereuse pour le peuple puisqu'il y avait là l'armée des Philistins, qui était une armée redoutable. Et Dieu a eu pitié de son peuple et il l'a orienté d'abord vers le sud. Mais, autre contrainte, c'est que vers le sud, comme vous pouvez le voir aussi, il y avait, vous connaissez la géographie dans cette région du monde, il y avait la mer Rouge. Et le peuple a été confronté donc au franchissement de la mer Rouge. Voilà. Donc, cette petite révision de géographie, eh bien, voilà. Donc, ils partent vers le sud, mais assez vite, ils se trouvent coincés, confrontés à des grosses difficultés. C'est que devant eux, c'est la mer Rouge, et derrière eux, il y a le désert, mais aussi entre eux et le désert, il y a l'armée du Pharaon qui marche à la poursuite du peuple, parce que le Pharaon a encore une fois changé de stratégie et il n'est pas d'accord de voir le peuple d'Israël partir. Donc, ils partent vers le sud. Et nous avions vu la dernière fois comment Dieu les avait délivrés en ouvrant devant eux la mer Rouge qui, après leur passage, s'était finalement refermée sur l'armée du Pharaon. Et pour introduire notre texte d'aujourd'hui, qui est au chapitre 15, eh bien, je vous propose de lire juste la fin du chapitre 14 précédent, les versets 29 à 31, et puis j'enchaînerai avec le chapitre 15. Donc, chapitre 14, verset 29. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Maintenant, chapitre 15, dans Bible papier, ça s'intitule le cantique de délivrance. Donc verset 1, chapitre 15. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai, je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. Verset 3, l'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux. Et les flots les ont recouverts, ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes contre eux le feu de ta colère, et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart, et ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait, « Je les pourchasserai et je les atteindrai. Je m'emparerai d'un butin, je m'en rassasirai, je tirerai l'épée, je me saisirai d'eux. » Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi? Et qui, comme toi, paré de sainteté et redoutable, et digne de louange, opérant des prodiges. Tu étends ton bras droit, et la terre engloutit nos poursuivants. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré, et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Verset 14. Les peuples l'ont appris, et ils ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. Déjà, les chefs d'Édom sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler. Tous les Cananéens en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple, ô Éternel, jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple que tu t'es acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être ta demeure, ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera à perpétuité. En effet, les chevaux du Pharaon, ses chars et ceux qui lui montaient s'étaient engagés dans la mer et l'Éternel avait fait refluer l'eau sur eux, tandis que les Israélites avaient traversé la mer à pied sec. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Myriam entonna en réponse aux Israélites, « Chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc, le dernier verset du chapitre 14, le verset 31, eh bien, il fait un constat. Ce constat, c'est le suivant, écoutez bien. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Donc après une période dense, en émotion, en doute, en rouspétance, il n'y a pas que les Français qui rouspètent, il y avait aussi là les Israélites avant qu'ils soient libérés, ils n'étaient pas d'accord toujours avec les dispositions que Moïse prescrivait. Eh bien, il s'ensuit quatre conséquences que nous allons voir pour le peuple, et qu'il convient de bien intégrer et de bien analyser. La première conséquence que je viens de lire là, c'est que le peuple craignit l'Éternel. Il craignit l'Éternel. La deuxième conséquence, c'est qu'il eut confiance en l'Éternel. La troisième, il eut confiance en son serviteur Moïse. Et la quatrième et dernière conséquence, c'est qu'il chante la louange de Dieu. Donc tout ça, c'est le verset 31 et la suite. Je vais le relire, parce que vraiment que ça rentre dans nos esprits. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. La crainte de l'Éternel modifie complètement l'environnement émotionnel et spirituel du peuple. Qu'entraîne la crainte ? qu'entraîne la crainte dans notre texte. Et pour le peuple, comme pour nous, cela conduit premièrement à la prise au sérieux de Dieu et de notre réalité de personne dépendante de lui. La deuxième conséquence, c'est la prise au sérieux de nos conducteurs spirituels. Moïse était-il parfait? Non. Si vous lisez l'histoire de Moïse, vous voyez qu'il n'a pas fait que de bonnes choses dans sa vie. Mais malgré tout, eh bien, il a agi pour Dieu. Et nous savons bien donc que Moïse n'était pas parfait. Mais il est resté fidèlement attaché aux directives divines. Nos conducteurs aussi ne sont pas parfaits, mais ils font tout leur possible pour rester dans les voies de Dieu. Je parle aux membres des conseils qui nous dirigent l'Église, aux pasteurs aussi, bien sûr. Le troisième point, c'est que la crainte de l'Éternel engendre aussi dans notre cœur de la gratitude et de la reconnaissance pour les grâces vécues qui s'expriment ensuite par des prières et des chants de reconnaissance. À l'instigation de Myriam qui a lancé le chant. Les chants de louange doivent être précédés par ce cheminement intérieur de crainte, de confiance en Dieu et de confiance en nos conducteurs spirituels. Ce cheminement que l'on voit pour le peuple qui me pousse à repréciser ça, qui me paraît très important. Tout le peuple chante des chants qui ne sont pas imprégnés de toute cette gratitude, eh bien, ils sonnent un peu faux quand on les chante. S'il n'y a pas toute cette gratitude le peuple, comme celle du peuple, eh bien, cela sonne un peu faux. Et une mise en ordre de notre vie doit précéder notre louange. En effet, une louange qui est exprimée sans la confession préalable de nos péchés, eh bien, risque de ne pas monter très haut. C'est une image, évidemment, mais c'est quand même une réalité. Donc, venons-en à nous. Comment réagissons-nous lors d'une délivrance du Seigneur? Là, on voit que l'Éternel, le verset 2, le texte nous dit que l'Éternel est ma force. Dans le chant qu'a chanté le peuple, il dit « L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai, je l'exalterai, lui le Dieu de mon Père. » Donc la première conséquence, c'est que le peuple, sous la houlette de Moïse, là, confesse au verset 2 que c'est l'Éternel qui est sa force. Ce ne sont pas ses propres muscles qui sont agissants, même si le moment venu, il faut quand même se mettre en mouvement. La deuxième chose que l'on voit dans ce texte, versets 11 et 12, ce sont les qualités de Dieu. Les qualités de Dieu, je vais vous les lire là rapidement. « Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi ? Et qui, comme toi, est paré de sainteté ? Qui est redoutable, qui est digne de louange, qui opère des prodiges, tu étends ton bras droit et la terre engloutit nos poursuivants. » Nous voyons donc la reconnaissance du peuple pour la grandeur et la puissance de Dieu. Pas d'autres dieux semblables aux hommes, mais il n'y a pas d'autres dieux semblables à notre Dieu. La reconnaissance du peuple aussi, dans la suite des versets, c'est pour sa sainteté. On chantera en clôture de notre culte un cantique qui parle de la sainteté justement de Dieu. Il y a aussi pour son action redoutable. Notre Dieu est capable d'actions redoutables. Pour des prodiges, c'est dans le texte. Pour ses délivrances. Tout cela justifie la reconnaissance du peuple. Mais il y a une reconnaissance qui est soulignée tout particulièrement au verset 13, c'est la reconnaissance pour son amour, l'amour de Dieu. Il est dit au verset 13, « Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré, tu l'as dirigé par ta grande puissance vers la demeure sainte. » C'est important de reconnaître que l'action de Dieu pour la délivrance de son peuple empreinte et guidée et motivée par l'amour pour son peuple, je dirais par l'amour pour nous. Alors, quelquefois, ces actions de Dieu peuvent être redoutables. C'est sûr que ceux qui ont subi, qui ont été engloutis dans la mer, là, ils sont morts. Mais quand on croit en Dieu, en Christ, dans son œuvre, eh bien, nous sommes délivrés. Avons-nous bien toujours conscience que les plans et les actions de Dieu dans notre vie de disciples sont sous-tendus par l'amour de Dieu, même si les conditions sont parfois difficiles, mais elles sont sous-tendues par l'amour de Dieu. Alors un autre point aussi qu'il faut souligner, c'est que l'Éternel a un plan pour son peuple. L'Éternel a un plan pour son peuple. Verset 17 nous dit que tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne t'appartient au lieu que tu destines à être ta demeure, ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. Donc tu les amèneras, tu les planteras. Dieu associe son peuple et son sanctuaire à sa propre demeure. Ce n'est pas un peuple dans un coin, hein, et puis le sanctuaire dans un autre coin. Le sanctuaire et le peuple sont unis. Qu'est-ce que cela induit pour nous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, le sanctuaire de Dieu, il englobe l'Église, il englobe la communauté locale des croyants. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier l'Église de notre propre vie. C'est un tout. Voilà. Et donc nous appartenons au sanctuaire de Dieu, nous appartenons à l'Église. On ne peut pas dissocier cela. Ensuite, l'Éternel a un plan pour l'éternité. Non seulement pour son peuple, mais aussi pour nous. Le verset 18 nous le dit clairement, l'Éternel régnera à perpétuité. Ce n'est pas une action comme ça, un jour, libérer le peuple de la mer Rouge. Donc c'est pour l'éternité, l'Éternel donc régnera. Alors, l'explosion de joie et de reconnaissance de la fin de notre texte, à l'initiative donc de la sœur de Aaron, qui s'appelle Myriam, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Quelquefois, en préparant, je me disais, si les femmes s'émouvaient avec un tambourin tourné dans la salle, ça serait vraiment une illustration de notre texte. Mais là, tout le peuple était associé à cette fête. Donc nous sommes édifiés par cet épisode de la vie du peuple. Mais je voudrais que nous soyons bien convaincus que notre Dieu, aujourd'hui, est bien le même que celui qui a conduit le peuple du temps de Moïse à la sortie d'Égypte. Dieu n'a pas changé. Voilà. Certes, il est peu probable que nous ayons expérimenté une délivrance aussi extraordinaire que la mise à sec d'un passage dans la mer Rouge, bien que on ne sait pas s'il peut nous arriver encore. Mais je suis persuadé que tel ou tel parmi nous pourrait mentionner une ou plusieurs délivrances extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Et puis, nous pouvons prendre aussi conscience de combien de délivrances miraculeuses nous sommes l'objet sans même que nous nous en rendions compte. Là, on pourrait imaginer des exemples où Dieu nous protège, nous épargne des accidents, des chutes, même si de temps en temps nous chutons, mais combien de délivrances nous bénéficions de la part de l'Éternel. Une autre délivrance. De plus, ne pensez-vous pas qu'une relation rétablie avec un proche, grâce au pardon que Dieu nous donne et que nous pouvons aussi exercer vis-à-vis de ce proche, ne pensez-vous pas que cela est aussi miraculeux qu'une traversée de la mer Rouge? réfléchissons à ce propos, parce que c'est vraiment un élément qui est important. Et ce genre de miracle est rendu possible parce que nous sommes nous-mêmes au bénéfice du pardon que Dieu nous donne, nous accorde en Jésus-Christ par son sacrifice. Et que c'est triste de constater parfois chez certains de nos proches des relations coupées, brisées, interrompues par défaut de pardon réciproque. Que de souffrances subies pourraient être soulagées par un pardon accordé. Pour conclure, je voudrais simplement relister les principales qualités de notre Dieu relatées dans notre texte et dont nous bénéficions en Jésus-Christ. Alors, l'Éternel est ma force, premier point dans le texte. Il est le sujet de mes chants. Chantons des cantiques, mais restons sur ce registre. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. Petit problème de rhume. Ensuite, verset 3, l'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. L'Éternel peut écraser nos ennemis. Verset 7, dans ta gloire éclatante, tu renverses les adversaires, tu déchaînes contre eux le feu de ta colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Ensuite, qui est semblable à toi? Qui est comme toi, paré de sainteté? Voilà le terme sainteté qui justifie le chant de tout à l'heure. Paré de sainteté, tu es redoutable, tu es digne de louange, tu opères des prodiges, on a vu tout ça. Ensuite, tu étends ton bras droit et la terre engloutit nos poursuivants. Verset 13, dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré, tu l'as dirigé par ta grande puissance vers la demeure sainte. Et le final, verset 18, l'Éternel régnera à perpétuité, c'est-à-dire encore aujourd'hui. Si quelqu'un voulait en douter, eh bien l'affirmation de la Bible, la parole de Dieu, c'est que l'Éternel régnera à perpétuité. Vous êtes convaincus de cela. Pourquoi devrions-nous nous faire des soucis après une telle énumération? Plaçons ou replaçons notre confiance en ce Dieu souverain, juste, aimant, qui s'est rendu accessible grâce à son Fils Jésus-Christ. Cultivons en nous cette crainte de Dieu que le peuple a développée au travers de cette délivrance. Et après un tel constat, nous ne pouvons guère faire autre chose que de chanter et de louer notre Dieu, comme l'a initié la prophétesse Myriam. Pendant que je vais prier, j'invite les musiciens à venir sur l'estrade pour ce dernier chant qui dit « À jamais tu es saint ». À jamais tu es saint, alors vous verrez les paroles, mais ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Restons avec cette pensée que l'Éternel est tout-puissant, qu'il est saint, qu'il est au-dessus de tout. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour la richesse de ta parole, pour la manière dont tu as conduit ton peuple dans l'histoire, pour cette délivrance miraculeuse où tu n'as pas hésité à fendre les eaux de la mer pour délivrer ton peuple. Seigneur, tu peux aussi aujourd'hui encore prendre des situations bloquées dans nos vies, dans notre entourage, dans nos relations familiales, dans nos relations personnelles, au travail ou ailleurs. Seigneur, tu es capable de briser, de casser, d'ouvrir les chemins, Seigneur, pour la paix. C'est ce que nous voulons te demander pour chacun de nous, que nous puissions vraiment cultiver, développer relation avec toi comme le peuple te l'a chanté après la délivrance de la mer. Bénis tous ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, soutiens-les, garde-les, donne-leur de se fonder sur toi, sur ta personne, sur la réalité de tout ce que tu es, au nom de Jésus.